Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été. On est ensemble jusqu'à 19h. En cas de forte chaleur, puis-je obliger mon propriétaire à installer la clim dans mon appartement ? Et si je refuse d'aller travailler au motif qu'il fait trop chaud, qu'est-ce que je risque auprès de mon employeur ? Des questions qui peuvent paraître anecdotiques, mais pour les habitants du sud de la France, elles pourraient bientôt devenir au centre de leurs préoccupations. La canicule vient en effet de sévir à nouveau en France ces derniers jours, 12 départements concernés dans le sud-est et des températures records, jusqu'à 42,7 degrés mesurés en Corse. Alors si Météo France a levé l'alerte hier, le risque reste élevé, surtout dans les années à venir. Épiphénomène ou changement durable lié au réchauffement climatique, les effets sont là et ne se limitent pas aux fortes chaleurs. Tempêtes, sécheresses, inondations, montée des eaux, incendies, autant de risques climatiques parfois difficiles à penser dans leur ensemble, mais qui pourraient devenir de plus en plus courants et qui posent surtout tous la même question. Faudra-t-il s'habituer à vivre avec ? Alors changement climatique, le temps de l'adaptation. Bien, c'est la discussion que nous aurons ce soir et trois invités pour en discuter, à commencer par vous Elsa Richard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en aménagement de l'espace et urbanisme, vous êtes également consultante chargée des recherches sur les enjeux climatiques et énergétiques chez Auxilia Conseil et vous êtes l'auteur de « L'adaptation au changement climatique, les réponses de l'action publique territoriale » paru en 2016 aux presses universitaires de Rennes. Notre deuxième invité se trouve dans les studios de France Bleu Provence à Aix-en-Provence. Il s'agit de Michel Ventier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur forestier à l'IRSTEA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture. Et vous êtes auteur, vous, de « Pourquoi les forêts brûlent-elles ? » C'était paru aux éditions Le Pommier en 2006 à vos côtés. Et troisième invité pour discuter ce soir, Pascal Hioux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et vous êtes l'auteur de « Le temps s'est-il détraqué ?» paru aux éditions Buchet-Chastel en 2015. Alors Pascal Hioux, première question pour vous, pour le climatologue que vous êtes. Est-ce que les épisodes de canicule qu'on a vécu ces derniers jours, en particulier dans le sud de la France, signifient qu'on est en train de passer du phénomène, on va dire, exceptionnel, comme la canicule, comme le fut la canicule peut-être de 2003, à une réalité qui va devenir de plus en plus fréquente ?
Alors, il y a deux aspects à votre question. C'est l'événement lui-même qui vient de se passer et l'événement en soi ne veut rien dire. Tout seul, ça ne veut rien dire. Par contre, la question inverse, c'est est-ce que le changement climatique induit plus d'événements de chaleur comme ça ? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'on aura...
Là-dessus, il n'y a plus de débat au niveau scientifique. La réponse est oui.
La réponse est oui. Il n'y a plus de débat sur le oui. Le débat, c'est sur le combien. C'est de combien par combien on multiplie la probabilité d'avoir ce genre d'événement.
Et à combien de degrés ?
Et à combien de degrés ? Donc le nombre de par combien on multiplie cette probabilité, ça varie entre 2 et 10, ce qui est beaucoup. Donc une grosse incertitude, mais on augmente quand même cette probabilité. Donc il faut savoir qu'une vague de chaleur comme 2003, qui est autrement plus grosse que celle qu'on a vécue la semaine dernière ou l'année dernière, a une probabilité d'apparition qui a été multipliée pratiquement par 10 entre le début du XXe siècle et maintenant. Et pour la fin du XXIe siècle, on s'attend à ce que un été sur deux soit comme celui de 2003, voire pire. C'est-à-dire que 2003 pourrait être un été plutôt frais à la fin du XXIe siècle.
Michel Ventier, même question quelque part appliquée au cas des incendies de forêt. Donc le changement climatique a été présenté comme un facteur parmi d'autres, bien sûr des causes d'incendies. On sait que le facteur humain reste le plus important, mais pareil, changement climatique, est-ce que on peut dire qu'on a quand même la création d'un terrain de plus en plus favorable aux incendies ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme la météorologie, c'est-à-dire que les événements de cette année, vus sur la France uniquement, c'est un événement qui est grave, mais qui a été largement dépassé dans le passé, c'est-à-dire qu'il y avait des feux à une époque plus importants, plus nombreux, sur des plus grandes surfaces. Ce qu'il faut regarder, c'est également à l'échelle finalement de ce qui se passe sur la planète, c'est-à-dire que partout où la canicule et la sécheresse deviennent plus fréquentes, ce que nous prédisent les météorologues et ce qu'on observe déjà, eh bien plus les incendies augmentent en nombre et en fréquence. Donc oui, on peut le dire pour des tas de raisons, à la fois parce que plus il fait chaud et sec, plus la végétation est combustible et donc plus elle s'enflamme aussi facilement. Et pour le même nombre de départs de feu mis par l'homme, puisque en France 80% ou 90% des départs de feu sont liés à l'homme, eh bien plus le feu a des chances de devenir un grand feu et donc de brûler des grandes surfaces.
Alors, il n'est pas toujours évident de penser dans leur ensemble à la fois les incendies, les canicules, mais on peut en parler aussi évidemment des tempêtes, des inondations. Est-ce qu'on peut quand même, Elsa Richard, peut-être les regrouper? On entend souvent parler d'événements climatiques extrêmes, c'est un mot qui revient. Est-ce que ça vous paraît pertinent de les penser ensemble en tout cas?
Il y a un intérêt à penser ensemble, on va dire, pour les pouvoirs publics, ou en tout cas pour adresser le problème de faire face au problème de changement climatique. Il peut y avoir un intérêt, en effet, à parler d'une conjonction d'événements pour venir motiver, on va dire, des réponses des pouvoirs publics au problème de changement climatique. Il y a en effet plus de doute sur le fait que le changement anthropique du climat est bien là, et bien installé. La question est en effet maintenant d'arriver à ce que des réponses politiques puissent être mises en œuvre face à ce problème, à la fois en termes d'atténuation et d'adaptation, ce qui nous anime ce soir.
Alors, une étude parue vendredi dernier, particulièrement inquiétante, je ne sais pas si vous l'avez vue, en 2100, donc d'ici la fin du siècle, 2 personnes sur 3 en Europe, soit 350 millions de personnes, pourraient être affectées par des événements climatiques extrêmes. Pascal Hioux, vous avez entendu parler de cette étude, et sur cette question justement de regrouper les événements climatiques extrêmes, est-ce que vous, ça vous paraît pertinent?
Alors bon, j'ai pas entendu parler de cette étude en particulier, mais c'est quelque chose qu'on sait depuis quelques années. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, à la fin du XXIe siècle, on s'attend à un climat très différent en termes de vagues de chaleur que l'actuel, avec plus de vagues de chaleur. Ensuite, la question du regroupement, si on s'intéresse aux vagues de chaleur, aux tempêtes, je pense qu'il est important de savoir que les vagues de chaleur ne connaissent pas les frontières. La météorologie ne connaît pas les frontières. Donc, ce qu'on a appris, donc je parlais de la canicule de 2003, ce qu'on a appris en 2003, c'était un événement exceptionnel à tout point de vue. Et puis, en 2010, il se passe quelque chose d'aussi exceptionnel, mais en Russie, quelques milliers de kilomètres à l'est. Et ce qui est remarquable, c'est que les Russes, manifestement, n'ont pas vraiment appris. Enfin, peut-être que la canicule de 2003 a fait la une des news chez les Russes, mais ils n'ont pas vraiment appris de ce qui s'est passé chez nous, ce qui fait qu'ils ont aussi souffert d'incendies énormes, même beaucoup plus grandes, à une échelle beaucoup plus grande que celle qu'on vit dans le sud de la France, d'autres problèmes de santé. Et donc, on n'avait pas réalisé que ce qui s'est passé en France pouvait se produire ailleurs qu'en France. Et maintenant, je me demande si ce qui s'est passé en Russie en 2010 a un impact sur nos politiques publiques, parce que c'était pire. Et si on va un peu plus loin dans le passé, une trentaine d'années, on sait qu'à la fin des années 80, il y a eu de grosses canicules dans l'est des États-Unis qui ont tué des milliers de personnes. Les Américains ont pris des mesures très rapidement. Et finalement, en France, à l'aube de l'été 2003, on ne s'est pas rendu compte que ce qui était arrivé aux Américains pourrait nous arriver aussi. Donc, la météorologie, c'est bien. Les pouvoirs publics devraient se rendre compte que la météorologie n'a pas de frontières. Donc, les événements extrêmes qui touchent nos voisins pourraient aussi nous toucher. Et ces voisins ne sont pas forcément très loin.
Alors, Elsa Richard, vous, justement, qui travaillez beaucoup avec les collectivités territoriales, est-ce que vous avez l'impression qu'en France, on ouvre les yeux sur ce qu'il se passe à l'étranger, notamment en Russie, ou même sur ce qui se passe chez nous dans l'histoire récente? Donc, on parlait de la canicule de 2003. Est-ce que vous avez l'impression qu'on tire suffisamment les leçons de ces événements dramatiques pour, justement, commencer à mettre en place des politiques d'adaptation?
Je pense qu'on en tire des leçons. La canicule de 2003 a quand même largement marqué les esprits. Il y a eu à la suite des plans canicule, enfin un plan canicule au niveau national. Il y a eu des alertes, des liens forts entre les pouvoirs publics et Météo France. Il y a des choses qui sont en tout cas très conjoncturelles, ça c'est une évidence. Je pense également à un autre extrême qui a beaucoup marqué les esprits, c'est la tempête Xynthia en Vendée. Et suite à ça, du coup, il y a eu des réponses au niveau national, des plans de prévention des risques littoraux qui se sont mis en place. Donc il y a des réponses, des adaptations qui se font de manière réactive, on va dire, à un événement majeur, un événement catastrophique. Le taux de mortalité, c'est malheureux de dire ça, mais en effet, on va dire les dégâts matériels et humains de chaque événement vient construire le niveau de réponse politique qui va être mis derrière. C'est-à-dire plus il y a des dégâts, forcément, plus la réponse va être forte. Après, de là, est-ce qu'on en tire suffisamment de leçons ? Je ne pense pas. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, je suis ravie qu'on puisse avoir un débat sur ce sujet. On voit que le sujet de l'adaptation fait la une de nombreux... Enfin, il y a beaucoup de tribunes dans les journaux aujourd'hui qui en parlent bien davantage qu'il y a 10 ans, même il y a 10 ans. Ouais.
Vous voulez dire qu'on est en train, presque quelque part, de découvrir qu'il va falloir qu'on mette en place des politiques d'adaptation, alors que jusque-là, on abordait la question du changement climatique uniquement sur l'angle de comment on lutte contre le réchauffement climatique, comment on l'empêche, et que là, on est en train de se rendre compte qu'on n'a pas assez réfléchi à comment on s'adapte une fois que les effets du réchauffement climatique sont là.
Oui, je pense que en effet les choses avancent. Il y a une forme, il y a quelque chose de relativement logique aussi dans la manière dont on a investi les deux volets, on va dire, de réponse au changement climatique, l'atténuation et l'adaptation, qui étaient tous les deux présents dans la convention cadre en fait des Nations Unies sur le changement climatique. Mais on voit dans les faits, notamment à l'échelle locale, qu'il y a eu une attention beaucoup plus forte sur l'atténuation, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parce que en effet, c'est à la fois la cause du problème. Donc, on essaye d'endiguer au départ ce qui cause le changement climatique. Et puis, quelque part, l'adaptation restait une sorte de vœu d'impuissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considérait les impacts du changement climatique, on acceptait le fait qu'il y ait un changement climatique. Aujourd'hui, on a franchi certainement des étapes en acceptant, et également grâce à toute la communauté scientifique qui arrive à des résultats qui sont de plus en plus fiables sur le caractère anthropique de ces changements climatiques.
Michel Ventier, avec le cas des incendies dans le sud de la France, alors on a pu lire que la France était peut-être un peu sous-équipée, notamment en termes de Canadair. Est-ce que là, on n'avait pas un révélateur qui illustre ce que vient de dire Elsa Richard, à savoir qu'on est un petit peu inadapté, en tout cas pas tout à fait. Il y a un petit peu d'impréparation face au risque climatique, en particulier des incendies.
Non, alors je pense qu'il faut bien dire que la France reste à l'échelle de l'Europe l'un des pays les mieux équipés, les mieux préparés face aux incendies de forêt. En tout cas dans la zone où il y a actuellement beaucoup d'incendies de forêt, et que s'il y a des problèmes d'entretien de certains matériels, etc., par rapport à des pays voisins, la France a fait et continue à faire un très gros effort. Ce qui explique d'ailleurs que l'on est une réduction forte des surfaces brûlées depuis 20 ans, 25 ans, et même dans les 10 dernières années, en moyenne, une très forte réduction, parce que, justement, suite à des très grands feux qu'on a eus dans les années 89-90, on a su prendre les mesures nécessaires. Donc, non, on peut pas dire que la France ne soit pas préparée. Il y a le fait que, lorsque les conditions sont extrêmes, on pourra avoir tous les moyens qu'on veut. On ne luttera pas contre les grands feux une fois qu'ils sont déclarés. On ne peut que limiter les dégâts, mais on ne peut pas les arrêter. Par contre, là où éventuellement il pourrait y avoir un risque d'impréparation majeure, c'est plutôt dans les zones où jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de risque d'incendie, et où lorsque ces fameuses canicules et sécheresses qui vont avec, qu'on nous prédit dans le futur, le risque d'incendie va s'étendre bien au-delà des zones actuelles méditerranéennes ou le sud-ouest de la France, la zone des Landes, eh bien là, on risque d'avoir des très gros incendies dans des zones où il n'y a ni les pistes de lutte contre l'incendie, ni les réserves d'eau, ni forcément les équipements, où la population n'est pas préparée, où les débroussaillements réglementaires pour protéger les habitations ou autour des villes et des routes ne sont pas faits pour l'instant. Et donc, ce qu'il y a vraiment dans le futur, une politique publique, puisqu'on parlait d'aménagement du territoire et de politique publique, où il y a probablement dans le futur un très gros effort à faire, c'est d'anticiper ce risque de très grands incendies dans des zones où actuellement ça brûle peu ou ça ne brûle pas du tout.
Et justement, Michel Ventier, est-ce que vous avez l'impression qu'on commence à prendre conscience de ça ? C'est-à-dire, est-ce que les territoires qui, pour l'instant, ne sont pas soumis à des risques incendies commencent à regarder un peu ce qui se passe dans le sud-est de la France et à se dire, bah, quelle politique publique nous, on va mettre en place ? Voilà, est-ce que c'est juste une alerte que vous faites, vous, de quelque chose qu'il faudrait faire, ou est-ce qu'on a quand même déjà un petit début de prise de conscience ?
Les zones les plus proches des zones qui brûlent actuellement, parce que justement, il y a déjà eu au cours de la canicule 2003 ou au cours de quelques récents épisodes de sécheresse, des petits feux, commencent à se poser la question, mais de façon globale, pour l'instant, on n'a pas du tout anticipé ce risque sur la grande majorité des zones. Donc ça reste à faire. Et donc, puisqu'on parlait d'aménagement du territoire, il y a aussi des politiques publiques qui pourraient être mises en œuvre et qui auraient un peu tous les avantages, notamment le fait à la fois de protéger la forêt, à la fois contre le risque d'incendie et contre les autres risques climatiques liés en forêt, notamment parce que l'un des risques majeurs avec le changement climatique, c'est le dépérissement des forêts ou de certaines forêts. On a actuellement des forêts qui se portent plutôt mal dans certaines zones du sud-est de la France. On est en train de faire des mesures là-dessus et qui montrent que les dépérissements qu'on a observés à petite échelle dans le passé pourraient se reproduire à grande échelle dans un futur pas si lointain. Et donc, il faut essayer de combattre à la fois le risque d'incendie, le risque de dépérissement, qui est assez important pour certaines espèces. Et en même temps, il faudrait essayer d'en tirer parti en termes d'atténuation. Alors, je vais prendre un exemple. Lorsque l'on éclaircit une forêt, il y a moins de concurrence entre les arbres. Et donc, s'il y a moins d'eau, les arbres se faisant moins concurrence, globalement, de façon générale, ils vont mieux résister aux épisodes de sécheresse. Donc, pour protéger la forêt de la sécheresse, on peut l'éclaircir. En l'éclaircissant, si c'est fait dans de bonnes conditions, on va aussi réduire la biomasse, donc le potentiel de combustible, et donc le risque d'incendie ou le risque de violence des incendies. Donc, protéger la forêt contre des dégâts considérables que pourraient faire des incendies dans des forêts très denses et non gérées.
Alors, oui,
et puis, en éclaircissant ces forêts... Oui, juste
allez-y.
Pour terminer sur l'atténuation, si on utilise cette biomasse qui est produite, au moins en partie, pour faire du combustible ou pour des usages durables du bois, pour faire des maisons par exemple à ossature bois ou pour utiliser du bois de façon durable, mais aussi pour faire du bois énergie. Vous savez qu'il y a des grandes centrales de biomasse qui se construisent actuellement, il y a une grosse contestation là-dessus. Il y a aussi beaucoup de petites centrales à biomasse construites par les collectivités. Eh bien, si on utilisait plus de bois tiré de cette exploitation de la forêt qui, pour l'instant, globalement en France, est sous-exploitée pour faire de la biomasse combustible, eh bien, on atténuerait aussi l'effet de serre parce qu'on utiliserait moins de combustibles fossiles. Donc, il y a besoin d'une politique forestière un petit peu visionnaire. Il y a déjà eu pas mal de rapports parlementaires, ministériels, etc., qui ont dit qu'il fallait gérer cette forêt de façon parfois plus intensive pour en tirer plus de biomasse, plus de bois, plus de ressources, donc plus d'emplois également, et que tout ça, ça pourrait aller tout ensemble dans la bonne direction.
Alors,
ça fait moins de risques d'incendie, ça fait moins de risques de dépérissement et ça produit moins d'effet de serre en fabriquant du travail, enfin en donnant du travail.
Concilier effectivement des politiques de lutte, d'adaptation au réchauffement climatique avec d'autres politiques, notamment par exemple pour les forêts d'exploitation du bois, c'est effectivement une question importante. Elsa Richard, vous vouliez réagir ?
Par rapport à ce qui vient d'être dit, plusieurs choses. En effet, l'intérêt pour les pouvoirs publics de conduire des politiques qui ont des bénéfices multiples est quelque chose qui marche relativement bien puisqu'on est sur des politiques qui sont difficiles avec des incertitudes qui sont fortes. Pourquoi finalement investir mettre en œuvre une politique d'adaptation sans savoir bien finalement quelles vont être les retombées. Donc de mettre en avant les multiples bénéfices, on va dire, d'une politique fonctionne relativement bien. Et ça, on le retrouve sur un certain nombre de sujets, donc sur la question de la gestion forestière comme cela vient d'être dit, mais également sur la question de la végétalisation, par exemple, des espaces urbains. Il y a des intérêts multiples à la fois pour le rafraîchissement, quand il y a un arrosage, également pour la perméabilisation des espaces ou la régulation du cycle de l'eau, etc.
Vous voulez dire qu'actuellement, pardon, les pouvoirs publics ne sont pas totalement convaincus des bénéfices qu'ils auraient à mettre en place des politiques d'adaptation au changement climatique ?
C'est difficile à évaluer, en fait, à quantifier. Quand on met en place une politique publique, il faut arriver à identifier les raisons pour lesquelles on le met en place. En général, dans la formulation classique d'une politique publique, il y a un problème qui est là, un problème qui devient à un moment relativement tellement fort qu'il devient un objet et un problème public, donc comme la question de l'adaptation, par exemple, comme la question, prendre un exemple très concret, l'îlot de chaleur urbain, me semble assez emblématique du changement climatique, dans le sens où la question de l'îlot de chaleur urbain est un phénomène qui existe, qui préexiste au changement climatique. À partir du moment où la question du changement climatique arrive, on voit une exacerbation de ce phénomène-là, on voit des pics de chaleur qui rappellent combien ce phénomène peut être difficile à vivre, et alors ça devient un problème public. Et là, derrière, il faut arriver à mettre en place une politique qu'on puisse aussi évaluer, qu'on puisse suivre, dont on peut voir les gains, les bénéfices. Et c'est là où ça devient difficile, et notamment parce que le changement climatique contient un certain nombre d'incertitudes. Donc finalement, on va mettre en place une politique pour un changement à venir, et c'est là où tout le problème cognitif, à mon sens, se trouve. C'est-à-dire comment arriver à mettre en place une réponse à un problème qui est là, mais pas encore complètement là. Donc là, il faut arriver à matérialiser les changements climatiques futurs, arriver à leur donner corps et à faire prendre conscience, en effet, de l'actualité. Et pour ça, il y a plein de solutions pour réduire ces incertitudes, ou en tout cas déplacer le problème.
Pascal Liu, pour faire une bonne politique d'adaptation, il faut effectivement des prévisions fiables. Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de données? Et comme le disait Elsa Richard, ce sont des politiques particulièrement difficiles à mettre en place parce qu'elles obligent à accepter une part d'incertitude.
Voilà, je voulais revenir sur ce point et tirer un peu la couverture sur mon domaine de scientifique de l'atmosphère. C'est que, a priori, la prévision... prévoir le temps qu'il va faire dans 15 jours, c'est raisonnablement fiable. Même le temps qu'il va faire demain est raisonnablement fiable. On a une bonne idée sur le fait qu'il y aura plus de canicules ou plus de certains types d'événements extrêmes. Maintenant, l'adaptation va se faire sur des événements qu'on a déjà vus. On s'est adapté à une canicule comme 2003, c'est-à-dire qu'en 2006, il y a eu une grosse canicule et très peu de morts parce qu'on savait, quoi faire. Le problème, c'est qu'en 2002, on savait pas qu'il y aurait 2003. Et la grosse difficulté scientifique, c'est anticiper des événements qui ne se sont jamais produits. Donc 2003, par rapport à la connaissance qu'on a jusqu'en 2002. Et s'adapter au changement climatique, c'est pas seulement s'adapter à une élévation de la température de quelques dixièmes de degrés ou l'élévation du niveau de la mer de quelques dizaines de centimètres.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà beaucoup, mais on voit venir, c'est des choses qui arrivent tranquillement, on les voit venir. Ce qu'on voit pas venir, c'est ces canicules, ces tempêtes brutales, ou par exemple une tempête brutale comme Klaus qui est arrivé en 2009, dans le sud de la France, dans la région de Bordeaux. C'était quelque chose d'assez unique en son genre. Et donc, on n'est pas préparé, par essence, à des choses qui ne se sont jamais produites. Et des choses qui ne se sont jamais produites peuvent se produire peut-être à cause du changement climatique, peut-être pas à cause du changement climatique. On n'a pas besoin de croire au changement climatique. Mais il faut se préparer, finalement, à des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on peut appeler des signes noirs, des choses qui émergent comme ça, qui sont liées à la variabilité climatique. Le climat n'est pas quelque chose de figé. Il peut y avoir des choses soudainement qui apparaissent. Et l'adaptation au climat, comme au changement du climat, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, puisqu'il faut s'adapter à des choses qu'on n'a jamais vues. Et donc, comme le faisaient remarquer mes deux collègues, c'est que c'est ça la difficulté, c'est l'anticipation de ces choses, finalement, jamais vues, sans précédent.
Michel Ventier, sur ce que soulevait tout à l'heure Elsa Richard, à savoir la difficulté à appréhender l'adaptation, puisque quelque part, jusqu'à présent, on était dans l'idée qu'il fallait aborder le réchauffement climatique, surtout sur l'idée d'empêcher le réchauffement climatique, et donc sur cette idée qu'on a du mal à se mettre à l'adaptation, parce que quelque part, s'adapter, ça veut dire accepter la réalité du changement climatique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est les événements extrêmes, effectivement, parce que la réaction des écosystèmes en général et de la forêt en particulier, c'est pas quelque chose de linéaire. Il y a beaucoup d'effets de seuil. Par exemple, pour une espèce donnée, elle va survivre en dessous d'une certaine température ou d'un certain niveau de sécheresse. Et puis, tout d'un coup, très brusquement, elle va mourir à partir du moment où on dépasse ce seuil critique. Donc, si on parlait des canicules, par exemple, effectivement, les canicules ont fait déjà des dégâts en France, mais comme on suit des réseaux de dépérissement des forêts dans le monde entier, on se rend compte que dans d'autres pays du monde, on a des millions d'hectares d'un seul tenant qui sont morts assez brusquement suite à des événements climatiques, comme il était dit, qui ne se sont jamais produits. Et il n'y a vraiment aucune raison pour que ça ne se produise pas chez nous. C'est-à-dire que là, on parlait de 42 degrés, mais on n'est pas à l'abri d'une canicule à 45 degrés, 47 degrés dans 10 ans, 20 ans. Et ça pourrait faire mourir très massivement, comme ça l'a fait dans d'autres régions du monde, d'immenses zones de forêt. Et la deuxième difficulté, c'est que autant, je veux dire, au niveau des hommes, on peut en quelques jours s'adapter à une canicule ou une ville, on peut prévoir un certain nombre d'aménagements. La forêt, ça se gère sur des dizaines ou des centaines d'années. C'est-à-dire que les arbres qu'on régénère actuellement, qu'on plante actuellement, c'est pour les récolter dans 80 ou 100 ans. Et là, vous imaginez bien savoir quel sera le climat dans 100 ans. C'est très difficile. Et donc, quelles espèces seront les plus adaptées au climat du futur ? Pour les forestiers, qui sont obligés d'avoir une vision à très très long terme, c'est un sujet sensible. Donc nous, ce qu'on pourrait préconiser, ce serait d'avoir une politique sans regret, c'est-à-dire se dire, quoi qu'il arrive, une forêt plus variée, une forêt à la limite plus jeune, a plus de chances de s'adapter, parce que chez les individus, plus ils sont vieux, plus ils ont du mal à s'adapter, ils ont toute leur histoire derrière eux, alors que les jeunes qui arriveraient maintenant, seraient plus adaptés au climat actuel et au climat futur parce qu'ils auront une sélection naturelle qui va sélectionner les plus résistants, alors que les anciens ont été sélectionnés par un climat qui était différent. Donc ça veut dire que la politique dont je faisais un peu la promotion, c'est-à-dire une forêt gérée de façon plus dynamique, aurait aussi l'avantage de régénérer les forêts, de faire venir de nouvelles générations. On pourrait aussi commencer à introduire lentement mais régulièrement de façon dispersée des espèces qui seront, ou des variétés, ou dans une espèce des provenances qui soient plus adaptées à la sécheresse et à la chaleur, de façon à préparer l'avenir, que le jour où on va dépasser certains seuils critiques, on n'attende pas pour régénérer cette forêt, parce qu'après il faudra 100 ans pour avoir de nouveau des arbres, alors que si on l'a anticipé, eh bien, peut-être que dans quelques dizaines d'années, on aura encore des forêts productives que l'on n'aura pas si on attend les événements extrêmes et les mortalités pour s'en occuper. Et puis un dernier problème, c'est que la forêt française, c'est une forêt en très grande majorité privée. Et donc, si on veut adapter les forêts, il va falloir avoir des politiques avec des grosses incitations, informations pour le public, pour les propriétaires forestiers, parce que beaucoup sont des petits propriétaires et que gérer leur forêt dans ce contexte-là est difficile. Donc, politique avec beaucoup d'informations, beaucoup d'incitations, si on veut que la forêt s'adapte pour le futur.
Mais justement, aujourd'hui, à qui échoue cette responsabilité d'adapter nos territoires au changement climatique ? Elsa Richard, est-ce que les collectivités locales actuellement sont un peu livrées à elles-mêmes face notamment à des problèmes très spécifiques, c'est-à-dire dans un territoire la montée des eaux, dans un autre les risques d'incendie? Est-ce que les collectivités sont un petit peu seules face au défi de l'adaptation?
En tout cas, les collectivités sont obligées d'y répondre, en tout cas pour toutes celles qui font plus de 20 000 habitants dans le cadre de la réalisation de leur plan climat. Elles sont obligées à la fois de réaliser un plan d'action pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et également de réfléchir à une stratégie et un plan d'action pour s'adapter au changement climatique.
Quand vous dites qu'elles sont obligées, c'est une obligation nationale, voilà, ou c'est une obligation de fait ?
C'est une obligation législative. La loi de transition énergétique oblige désormais les collectivités de plus de 20 000 habitants. Jusque-là, la loi Grenelle, c'était les collectivités de plus de 50 000. Mais là, c'est de plus de 20 000 désormais, à réfléchir, enfin sur le volet adaptation en tout cas, à s'en saisir, à en faire un des objectifs de leur plan climat. Leur plan climat air, énergie territoriale, pardon. Donc elles sont obligées au sens vraiment législatif. Pour autant, les modalités concrètes de mise en œuvre restent relativement libres. Et sur ce point-là, il y a tout un, on va dire, un champ d'acteurs qu'elles peuvent mobiliser. Mais néanmoins, elles sont aujourd'hui en train, en effet, d'ouvrir le chemin. Et il y a une espèce de chemin faisant entre la recherche et l'action sur ce champ-là. Mais les collectivités aujourd'hui, enfin sur celles qu'on peut voir qui se saisissent de cette problématique, je vois, on va dire, deux défis principaux pour elles dans la question de formuler des réponses d'adaptation au changement climatique. Le premier défi, à mon sens, est d'arriver à l'échelle locale, puisque là on parle bien des collectivités territoriales, d'arriver à faire exister ce problème de changement climatique à l'échelle locale.
Vous voulez dire et au niveau de la population, c'est-à-dire que les gens se sentent concernés par ça, et au niveau des élus, faire émerger déjà l'adaptation comme problématique.
Oui, et l'adaptation, en effet, et par les impacts. Enfin, en fait, c'est que la question des impacts est relativement difficile à identifier à l'échelle locale, puisqu'il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en jeu, comme ce qui a pu être dit tout à l'heure sur la forêt. Mais les études scientifiques qui ont été conduites pour mettre en évidence ce changement climatique sont faites à une échelle relativement grande, au niveau mondial, au niveau national, on voit des choses. Au niveau régional, on voit que des études arrivent à spécifier avec un grain un petit peu plus fin un certain nombre d'impacts. Mais à l'échelle très locale, c'est difficile de savoir si le blanchiment des coraux est vraiment dû au changement climatique ou dû à des pollutions locales. C'est difficile, en effet, également sur la question de la submersion marine. Est-ce que, au moment de Xynthia, la question s'est posée. Un certain nombre d'études ont aussi montré que la vulnérabilité, finalement, de nos sociétés se sont accentuées au cours du siècle. Donc c'est sûr que les vagues vont plus loin dans les terres. Les feux remontent de plus en plus dans le nord, dans des terres qui, jusque-là, n'étaient pas forcément soumises au risque d'incendie. Mais néanmoins, il y a aussi toute une activité anthropique locale, une urbanisation croissante sur des espaces qui sont relativement vulnérables, qui vient. Donc il y a une conjonction de facteurs qui fait qu'à l'échelle locale, c'est un défi en soi d'arriver à faire exister ce problème de changement climatique par rapport à d'autres problèmes.
Et puis j'imagine que c'est aussi une question de moyens et de coûts. Est-ce qu'aujourd'hui les collectivités territoriales, dont on sait que c'est quand même un échelon qui souffre d'un manque d'argent, pour le dire assez clairement, est-ce que le frein principal à la mise en place de politiques d'adaptation, c'est pas tout simplement les moyens ?
Ben, c'est sûr que ça va être difficile de mettre en place, de faire un investissement pour rehausser une digue ou pour délocaliser un lotissement si on n'est pas bien sûr que finalement c'est nécessaire. Ça, c'est clair. Mais après, il y a aussi une question sur la question de l'incertitude qui était discutée tout à l'heure. Il y a pour les collectivités un vrai défi à relever aussi sur ce volet-là, c'est-à-dire dans quelle mesure peut-on attendre ou doit-on attendre que les incertitudes se réduisent, si seulement elles peuvent se réduire. À mon sens, elles ne pourront pas se réduire et il est nécessaire d'accepter en fait ces incertitudes-là pour pouvoir conduire des politiques publiques, pour pouvoir commencer à mettre en œuvre des politiques publiques d'adaptation.
Pascal Liu, sur l'adaptation, est-ce que penser l'adaptation, quelque part, c'est nous obliger aussi à penser à un nouveau modèle de société et de se dire qu'il va falloir réfléchir en termes de stratégie de survie, alors que jusqu'à présent, l'humanité a plutôt fonctionné sur une stratégie de conquête ou de maîtrise de son environnement.
Alors, je ne sais pas si j'exprimerai ce problème d'adaptation en ces termes. Mais plutôt en termes de prise de conscience. Jusqu'à présent, il n'est pas clair dans mon esprit que les citoyens ou même les scientifiques étaient conscients du risque climatique lié aux événements extrêmes ou d'autres, d'une manière générale. Le risque peut être vu, enfin peut être quantifié. Le risque, c'est un produit de plusieurs types de probabilités, la probabilité d'avoir un aléa climatique, la probabilité d'être touché par l'aléa climatique, et puis ce qu'on a à perdre. D'accord. Donc tout, il y a plein de théories scientifiques là-dessus. Ça s'appelle la théorie des jeux, enfin qui permet de quantifier ça. C'est comme si on jouait à vivre. On joue à vivre. On connaît les risques. On connaît les risques de perdre, les risques de gagner. Tout ça est quantifiable ou semi-quantifiable. Il y a beaucoup de livres là-dessus de collègues économistes. Et on se rend compte que le risque de perdre. On s'est rendu compte récemment que le risque de perdre en ne faisant rien, en fait, était très grand. C'est-à-dire qu'on risquait forcément on risque plus en ne faisant rien qu'en faisant quelque chose. Alors, il y a des mesures sans regret, dont on a parlé tout à l'heure, qui permettent de diminuer le risque de perdre tout. D'accord. Donc il y a plein d'économistes, hein, des gens très savants, donc qui arrivent à des conclusions sur le risque, sur la probabilité de tout perdre. Donc la ruine versus la probabilité de finalement de prospérer ou de survivre, comme vous dites, en fonction de mesures soit d'adaptation. Alors il y a plein de manières de s'adapter, soit construire une digue, soit aller ailleurs, ou l'atténuation. Donc on commence à essayer de quantifier ça, mais c'est évidemment avec des incertitudes telles que finalement on pourrait décider de ne rien faire. Mais de tout temps, l'homme a pris des décisions alors que il y avait une grosse incertitude. Alors soit il n'était pas conscient de l'incertitude, du risque qu'il prenait, soit il en était conscient et on prend la décision qui va minimiser le risque. Des fois, ça vient d'attitudes complètement déraisonnées, une intuition. Des fois, ça provient d'un calcul. Mais bon, en général, il vaut mieux suivre ce que vient d'un calcul. Enfin, il y a beaucoup de travaux là-dessus aussi. Enfin.
Michel Ventier, votre regard à vous sur la manière dont nos politiques d'adaptation peuvent nous remettre en cause peut-être quelque part certaines perceptions comme celle de la sécurité, comme celle du progrès. Ou est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut essayer de voir l'adaptation des fois aussi comme une chance, celle de mutualiser certaines politiques, de se dire aussi peut-être que pour certaines zones, temporairement, au moins, le réchauffement va être une chance en termes d'agriculture.
Oui, en termes de forêt, comme je vous l'ai dit, il y a une difficulté, c'est le très long terme sur lequel il faut travailler. On a en termes de savoir ce qu'on peut gagner ou perdre, on a une à peu près certitude, c'est que s'il y a des événements climatiques vraiment extrêmes en termes de canicule ou de sécheresse, on pourrait perdre beaucoup. C'est-à-dire on pourrait perdre des forêts entières, des pans entiers de nos forêts, avec tous les emplois qui vont avec, vous voyez, toute l'écologie qui va avec, la protection des sols, le cadre de vie. Donc le risque de perdre, sinon tout, au moins beaucoup, est vraiment très important. Et toutes les études qu'on fait en ce sens, en termes de chercheurs, hein, il y a pas mal dans la communauté de la recherche, pas mal de gens qui travaillent là-dessus, on montre bien que le risque de perdre énormément au niveau forestier est important. Donc là, il y a a priori pas d'autre solution que de travailler à s'adapter et en essayant en même temps, comme je vous l'ai dit, d'aller dans le sens d'une atténuation. Et puis il y a des fois des difficultés. Par exemple, je vais prendre deux politiques qui sont à la fois très utiles et très contradictoires. Il y a le politique de ce qu'on appelle la trame verte et bleue, c'est-à-dire c'est essayer d'avoir des continuités écologiques pour que les espèces puissent se déplacer dans le paysage, puissent migrer, puissent avoir des lieux à la fois de reproduction, de nourriture, etc. Donc c'est très important en termes de biodiversité, donc y compris en termes de gestion forestière. Mais d'un autre côté, continuité écologique veut aussi dire continuité de combustible. Et dans les zones soumises au risque d'incendie, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de casser ces continuités de combustible, essayer de fragmenter un peu le paysage pour éviter les grands incendies majeurs qui, comme dans certaines régions du monde, peuvent dépasser 100 000 hectares. Donc, on a, vous voyez, un exemple typique de choix à faire. On ne peut pas avoir tout, on ne peut pas à la fois avoir un risque très limité d'incendie parce qu'on a des petites zones de combustible isolées et avoir en même temps une politique environnementale qui permette d'avoir une continuité de végétation et donc de combustible sur des très grandes surfaces. Donc il faut trouver un équilibre, c'est pas facile et c'est là que c'est très important à l'échelle des territoires tout entiers de réfléchir, les collectivités, les scientifiques, etc. De réfléchir à des solutions qui permettent d'optimiser au mieux l'ensemble des fonctions et l'ensemble de ce qu'on attend de la nature en termes à la fois écologiques et économiques.
Elsa Richard.
Oui, mais j'avais envie de finir quand même sur sur quelques certitudes par rapport à tous les risques qu'on a évoqués. On a parlé beaucoup d'incertitudes, mais il me semble qu'il est quand même... Il y a un certain nombre de certitudes qui doivent suffire, en tout cas, à mettre en œuvre un certain nombre de politiques d'adaptation. Qu'il en est fait certain que le changement climatique est là et ne va que s'accentuer. Il est certain que nos conditions de vie vont se dégrader. Les études sont... chaque rapport du GIEC est de plus en plus alarmant sur le sujet. Il est à mon sens certain qu'il sera de plus en plus insupportable de vivre en ville l'été. Et il est aussi certain que l'adaptation est un choix politique à faire. Et donc, à ce titre-là, il peut servir, on peut saisir l'objet de l'adaptation en effet comme un moment en tant que un peu emblème de l'anthropocène, en fait. Finalement, on se reprend en pleine figure toutes nos activités humaines qu'on a eues depuis plusieurs siècles. Et à ce titre-là, on peut évidemment prendre l'adaptation comme une opportunité pour repenser nos modes de faire, pour repenser notre relation au progrès notamment, et notre confiance un peu démesurée au progrès. Et on peut
subir le changement climatique ou en faire une opportunité. C'est un petit peu la conclusion. Je vous arrête parce que c'est la fin de cette émission. Sujet à suivre, bien sûr. Je vous remercie grandement tous les trois. Elsa Richard, Michel Ventier, Pascal Hilloux d'y avoir participé. Merci aux équipes de France Bleu Provence pour avoir assuré la liaison avec le duplex. Les références, les ouvrages, les liens, les infos, mais aussi la réécoute de cette émission et de toutes les autres. C'est comme toujours sur France Culture. .fr à la page du Grain à Moudre d'été. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Pierre Testard, Isulte Sicard, Philippine Lebray, Cédric Fuentes et Juliette Montilly. Réalisation Romain Masson. Prise de son ce soir Jacques Azubert. Droit d'auteur Paul Simonacci.